Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'humain est à jamais condamné à rester en lui-même. C'est la tragédie du solipsisme. On ne peut jamais être hors de nous-mêmes, jamais investir le corps, la perception ou la personnalité d'autrui. On peut évidemment tenter de changer de vie, se renouveler, de faire table rase du passé. Mais l'humain reste toujours ancré dans le réel, qu'il soit corporel ou social, géographique ou économique. Être autre de façon radicale et profonde, voilà une impossibilité métaphysique à laquelle se heurtent les âmes en crise depuis toujours. Pourtant, au début du XXIe siècle, une lueur d'espoir apparaît. La promesse d'un monde, voire d'infinis mondes nouveaux, voit le jour. Ce sont des mondes dans lesquels des milliers de personnes partout dans le monde peuvent se redéfinir, choisir un nouvel être, défaire des contraintes imposées par le genre, le statut social, l'âge ou encore la forme physique. Tout le monde peut y courir, discuter, combattre dans une nouvelle peau, choisie avec plus ou moins de détails par l'utilisateur. Ce sont les mondes virtuels, jeux ou véritables simulateurs de vie, qui permettent au joueur ou à la joueuse de sortir de son moi et de devenir autre. Rien n'incarne mieux cette promesse d'une renaissance virtuelle que l'univers de Second Life. Sorti en 2003, ce logiciel gratuit promet aux utilisateurs de pouvoir vivre une nouvelle vie en ligne. Les médias s'emparent plus ou moins immédiatement du phénomène. En France, c'est en 2007 que Second Life est projeté sur le devant de la scène, tant et si bien que les candidats à l'élection présidentielle y ouvrent tous des bureaux de campagne virtuels. Néanmoins, l'illusion de Second Life comme un nouveau monde est vite compromise. Les marques investissent lourdement dans ce monde virtuel, achetant pour des sommes parfois colossales des propriétés virtuelles pour y faire des magasins. On y blanchit également de l'argent en utilisant le linden, la monnaie du jeu, notamment dans les casinos virtuels qui occupent une place centrale. Le rêve d'un monde profondément autre s'effondre donc, devant ce qui devient une extension virtuelle du capitalisme. Cependant, tout n'est pas négatif. Second Life est aussi une terre féconde pour celles et ceux qui voulaient penser l'échange, la sociabilité, l'être ensemble autrement, comme le montre ce documentaire d'Anita Castiel pour Surpris par la nuit, intitulé Radioactivity, la vie rêvée sur le net, je est un autre, diffusé pour la première fois le 18 décembre 2007. On y retrouve notamment Tatiana et Natacha Kester-Séméon, propriétaires de l'Île Verte, un lieu d'échange, de colloques et d'événements pour des ONG diverses et variées. Un voyage à la découverte d'un monde pas si nouveau que ça, donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Surpris par la nuit.
Puisqu'on y est, je vais vous montrer notre île. Il y a l'île de Natacha, mais elle vous montrera plus tard. Je vais vous montrer les futurs campus européens que nous sommes en train de faire et que nous avons déjà quand même des labos de recherche qui vont venir. Là, c'est l'île de Natacha. C'est aussi Tatiana qui l'a faite, mais bon. Voilà, là c'est le campus, ça va être le futur campus européen. Et là vous avez des... Nous avons construit quelque chose comme ça, une espèce d'agora. Et après, chacun qui va venir, il va construire ce qu'il veut. Mais c'est le campus, c'est le futur campus. Et vous avez la mer, là, vous voulez la mer? Thank you.
Qu'est-ce que vous faites, Natacha ?
Là, je suis à la coopération française et je discute avec un nouvel utilisateur.
Ah, il a l'air bien baraqué. Hein.
Ah oui, en général, tout le monde se met à son avantage. Voilà, là, il est en train de dire qu'il est en train de chercher un job. Ça, c'est... Malheureusement, c'est une des choses qui est le plus demandée par les nouveaux. Donc, on discute par texte. Donc, on tape sur le clavier et lui me répond à la fois sur le clavier. Et il y a une portée à peu près de 20 mètres autour de nous. Je suis en train de lui expliquer que l'un des seuls moyens de gagner de l'argent dans ces Gun Lives, c'est de savoir construire ou programmer. Parce que ce qui est étonnant, c'est quand on se promène dans ces Gun Lives, il y a beaucoup d'endroits qui sont vides, en fait. Et quand on rencontre d'autres avatars et qu'on discute avec eux, là, on réalise que derrière chaque personnage, en fait, il y a quelqu'un en temps réel qui est en même temps que vous, donc, sur Internet, et qu'on peut discuter. Au début, c'est assez troublant.
Vous pouvez le faire par la voix aussi ?
Oui, on peut le faire par la voix, mais ça marche pas très bien pour le moment, parce que, en fait, les utilisateurs, les résidents, sont un peu sceptiques, parce que la voix dit beaucoup de choses, en fait. À travers la voix, on peut sentir l'âge de la personne. Et puis, aussi, on peut aussi savoir si c'est un homme ou une femme. Et il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on voit un homme qu'il est, dans la réalité, c'est assez évident, baraqué et grand et bronzé. Mais ça peut être aussi une femme, peut-être, derrière ce personnage. Ou inversement, derrière une femme, ça peut être un homme. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs. Donc, la voix, ça gêne beaucoup ceux qui jouent ce qu'on appelle le roleplay. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être dans ces Gun Lives et jouer. À ne parler que de Second Life et à ne pas connaître la vraie vie. Donc il y a une partie des utilisateurs qui ne veulent pas qu'on fasse de référence à la vie réelle. Donc il y a plusieurs niveaux de résidents, en fait. I use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jam, unlock it, surf it, scroll it. Se rêve-t-on une vie meilleure sur le net ? Les premières pierres d'une civilisation virtuelle sont-elles en train de se poser via ces nouveaux jeux et univers du persistant auxquels des millions d'internautes ont succombé de par le monde et dont le plus médiatisé est Second Life. Dans Second Life, les règles du jeu appartiennent aux résidents, les avatars, qui transforment et enrichissent en permanence un espace de simulation sociétale totalement vierge à sa création en 2003. Après l'euphorie médiatique de ces derniers mois, cette émission en deux volets propose une visite du chantier cyberespace. Ce premier volet « Jeu » est un autre, part à la rencontre de quelques penseurs des cultures d'univers en voie d'émergence et des bâtisseurs de ces nouveaux mondes, dont Tatiana et Natacha Quester-Séméon.
Qui passe ?
C'est Natacha.
Vous avez même le ressac la mer.
Il y a la musique aussi. Et voilà. Nous avons tous les sonates de Chopin, par exemple. Après, je vous montrerai la surprise, parce qu'il y a une surprise dans l'île.
On a même la Vénus de...
La Vénus de Milo.
Elle vous appartient.
Oui. Second Life, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est un vrai paradoxe. Et, disons, pour ma sensibilité, par exemple, parce que d'un côté, c'est le temple de la société de consommation et de capitalisme, parce que tout est privé. On achète tout, absolument tout. Au début, par exemple, je ne savais pas. J'ai acheté des chevaux, des bateaux pour partager avec tout le monde, mais pas du tout. On est propriétaire privé, donc c'est une propriété privée. Tout est propriété privée. Et l'idée aussi qui est venue petit à petit avec l'expérience, c'est de mettre une île de pure gratuité, parce que chez nous, tout est gratuit, et un jardin poétique, pour proposer autre chose, pour être présente, que la gratuité soit présente dans cet univers si mercantile. Voilà, entre autres.
C'est un univers poétique pour vous, Tatiana ?
Pour moi, oui. Il est essentiellement poétique, il est même métaphysique. Éthiquement parlant, moi, je suis bien contente que nous soyons là pour dire que non, on peut faire autrement et qu'on peut faire de belles choses et respectant soi-même et respectant aussi l'autre, quoi.
Et on peut être dans l'utopie.
Et on peut être dans l'utopie. Et, oui, et aussi, c'est pragmatique, hein, quand nous faisons des conférences, par exemple, avec nos physiciens ou des philosophes et tout, il y a des gens du monde entier qui viennent quand même. Et donc, il y a des universités, il y a énormément d'universités qui sont dedans. On peut donner des cours, nous, on va donner des cours dedans avec des gens. Donc, c'est on peut faire de l'apprentissage vraiment permanent là-dedans. Ce n'est pas que le business, ce n'est pas que le sexe, ce n'est pas que les jeux. Même si je n'ai rien contre, il y a du tout pour faire un monde, ce n'est pas ma sensibilité, c'est tout. C'est un monde aussi, comme tout, quoi. Il va être ce que nous allons faire de lui. Ça m'a donné une idée de faire aussi une île pour les handicapés et une île pour les enfants autistes.
Hello.
J'ai la bande-annonce du Manège Enchanté et un trailer d'une bande-annonce d'un jeu, un MMORPG, massivement multijoueur, role-playing, enfin massively multiplayer, role-playing game, online. C'est un jeu massivement multijoueur online. C'est un monde virtuel, un monde persistant, un jeu qui se déroule sur, je crois que c'est une saga sur 10 000 ans. Donc, bien sûr, le temps est totalement accéléré. Donc, ce sont des jeux où il peut y avoir jusqu'à 1000, 2000, 3000 personnes connectées simultanément. C'est pour ça que ça s'appelle massivement multijoueur.
Virginie se bague. C'est un jeu voilà. Auquel vous avez participé, Virginie.
Ça, le Manège Enchanté, c'est un film, en fait. C'est le film d'après la petite série d'animation qu'on voyait quand on était petit. Donc, le Manège Enchanté. Et il y a eu un film qui est sorti en 2005.
Et là, vous avez fait quoi ?
Éclairage et compositing. C'est-à-dire éclairage et composition.
Oh, come on, it's all clear.
Dougal.
Brian.
Le travail, Virginie, sur un film d'animation ou un jeu est très proche.
Rien à voir. Rien à voir, c'est au niveau des modélisations pour un jeu online, c'est du temps réel. C'est-à-dire que c'est l'action qui prime. En fait, on peut interagir, on peut attraper des objets, on peut interroger des personnages. Que dans un film, le spectateur est spectateur et ne peut pas agir, ne peut pas interagir. Donc au niveau de la définition des personnages, il y a beaucoup de polygones en 3D, enfin je parle pour tout ce qui est 3D. Il y a beaucoup de polygones. Et pour du temps réel, c'est totalement différent. C'est trouver sa liberté dans un espace de contrainte, en fait, dans le travail du jeu. Pour le jeu vidéo, on ne peut pas utiliser les mêmes lumières.
Donc on ne peut pas avoir autant d'effets en termes de rendu.
On utilise des subterfuges.
Par exemple, vous pouvez montrer
par exemple,
quelques jeux auxquels
pour le jeu vidéo,
sur lesquels vous avez travaillé.
Ça va être Rhizome. Alors c'est justement ce MMORPG auquel j'ai participé.
Ça veut dire un jeu...
Un jeu de rôle massivement multijoueur, online. En fait, dans ce jeu, il y a 5 espèces sur une planète... qui ressemble un peu à la Terre, mais avec des... Chacune des espèces vit dans un univers, c'est-à-dire dans le désert, où le peuple de l'eau, le peuple de la forêt, le peuple des montagnes. Chacune des espèces avec un habitat, une religion, un type d'objet qui lui correspond. Et là, comme vous pouvez voir sur l'écran, on voit que les personnages sont beaucoup moins définis. Il y a plus de facettes. Les mouvements sont moins fluides que dans un film.
Donc c'est quoi ? C'est un affrontement entre 5 espèces ?
Voilà. Je dirais que c'est en filiation avec les jeux de rôle. qui existe depuis peut-être 30 ou 40 ans.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it,
Olivier Caïra.
Dans Second Life, on retrouve une tendance qu'on observe également dans beaucoup d'autres expériences partagées de la fiction, qui consiste à réinvestir un fond déjà partagé de figures, de manières de parler, issues de grands univers de fiction. Vous avez toute une communauté de fans de Star Trek, par exemple, qui sont une communauté très très forte aux États-Unis et au Canada, qui se retrouve dans Second Life, et donc on peut croiser dans certaines zones des personnages qui sont vraiment calqués sur les personnages ou les extraterrestres de la série. L'univers de Star Wars est également très présent, l'univers de Harry Potter, l'univers du Seigneur des Anneaux. Finalement, on constate que les internautes recyclent énormément de connaissances partagées. Je parlais de la communauté des amateurs de Star Trek. Vous avez, dans les films qui ont été adaptés de la série Star Trek, des extraterrestres qui parlent une langue, le Klingon, qui avait été forgé par un linguiste américain, Marc Krant, et aujourd'hui, on dénombre 7000 locuteurs du Klingon dans le monde, essentiellement du fait d'une diffusion qui s'est faite par Internet. Et on peut apprendre des phrases en Klingon en téléchargeant des fichiers de son. On peut apprendre à dire « ouvre la porte »,« merci
».
Ça signifie « ouvre la porte ». Et on peut en télécharger des centaines sur un site donc, qui s'appelle kaeli.org. Donc c'est Klingon Language Institute. Et c'est un institut associatif où donc, les locuteurs du Klingon, les Klingonophones dirons-nous, proposent comme ça toute une initiation à cette langue. Sachant qu'au départ, ça n'est pas juste une langue qui est... créer une espèce de baragouin qui aurait été créé pour un film isolé. C'est une langue créée suivant donc, des principes de linguistique générative pour l'ensemble des films qui ont été adaptés de la série Star Trek à partir des années 70.
Il y a aussi un questionnement intéressant sur l'apparence qu'on se donne ici. C'est très intéressant de voir que vous faire très très belle et vous faire très très beau et très musclé, c'est facile, mais peut-être si vous souhaitez avoir quelque chose qui vous ressemble plus ou bêtement avoir par exemple un t-shirt qui couvre votre nombril ou, ou avoir, vous avez 30, 40, 50 ans, vous voulez avoir un aspect qui vous ressemble, et bien c'est pas évident du tout. Vous allez avoir par exemple des peaux là, ouais. Par exemple, je porte une peau que j'ai achetée, et cette peau-là, eh bien, vous aurez une peau éternellement jeune de quelqu'un qui a 18 ans ou 25 ans. Et donc, il y a des gens qui ont un peu critiqué en disant que tout le monde était très beau, très gentil. Mais en fait, si vous voulez changer votre apparence, c'est pas si évident. Et c'est drôle aussi de voir au fur et à mesure des communautés qui se développent, des styles de design aussi. Il y a un moment, c'était beaucoup des Américains qui créaient des choses, donc c'était avec leur standard esthétique à eux. Et ensuite, ils ont commencé à faire des peaux pour des personnes qui avaient de type, je ne sais pas, par exemple, asiatique, hindou, des peaux noires. Donc, on voit aussi des styles de design. Aussi, vous avez les Italiens, qui sont les Anglais, qui font des très belles choses, comme Lily Hart, qui est vraiment la plus grande pépiniériste de Second Life, qui fait un travail magnifique. Toutes les plus belles plantes, c'est elle qui les fait. Et donc, c'est intéressant de voir, selon les cultures aussi, le design. Et il y a un truc, quelque chose que dit que l'inventeur de Second Life, Philippe... Rosdell, c'est que finalement, quand vous allez dans Second Life, si vous allez dans une boutique japonaise, elle est tenue par un vrai japonais. Il va en fait faire la boutique selon ses critères à lui. Donc finalement, vous pouvez faire des voyages de plus en plus, rencontrer des communautés linguistiques qui sont elles-mêmes avec leurs référents culturels et qui vont créer l'environnement d'après leur culture. Et là, en fait, on voyage. C'est-à-dire que vous avez par exemple une partie japonaise dans Second Life, ils parlent japonais tous. Et c'est troublant parce que vous vous retrouvez là, du coup... finalement à vous rencontrer les gens chez eux ou dans le monde tel qu'eux ils le conçoivent, et là on peut aller vers d'autres cultures. Il n'y a pas encore une représentation de toutes les communautés de la planète, c'est évident, mais on voit que que chacun, avec ses critères esthétiques et sa culture, va donner sa propre diversité. Et là, du coup, ça uniformise beaucoup moins le Second Life. Il va devenir plus asiatique, etc. D'ailleurs, il y a une copie de Second Life, le Second Life chinois, qui se développe très, très, très vite. Et il discute déjà de faire une passerelle entre ces mondes-là. Et ce vers quoi on tend également, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Simplement pour dire que vous aurez votre avatar et vous pourrez bientôt passer d'un monde virtuel à un autre, ou d'un jeu à un autre, puisqu'après il y a aussi des communautés des jeux. Et ça va être amusant de voir un personnage d'un autre monde arriver dans Second Life et on va se mélanger. Ça va être comme faire des grands voyages dans des mondes parallèles. Enfin, voilà. Là voilà, il y a Tatiana avec laquelle je suis en train de parler sur l'île verte.
Stéphane Pilet, vous avez écrit un ouvrage pour nous aider à plonger dans Second Life, pour maîtriser, c'est ce qui est écrit sur la page de couverture, pour maîtriser votre seconde vie. Vous avez l'impression d'avoir une seconde vie ?
J'ai pas l'impression d'avoir une seconde vie parce que je me comporte dans Second Life un petit peu comme je me comporte dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, c'est vraiment un outil comme Internet. Donc j'y vais, je vais chercher des informations, je vais discuter avec des gens et je découvre des thématiques nouvelles. Donc je m'invente pas une deuxième vie. En fait, c'est voilà.
C'est-à-dire votre avatar porte votre nom, il est habillé comme vous ?
Alors il est pas habillé comme moi, il porte pas mon nom. Parce qu'on peut pas choisir son nom. Enfin, on peut choisir son prénom, mais pas forcément son, entre guillemets, nom de famille. Et non, je m'habille pas du tout non plus dans Second Life quand je m'habille dans la vie. Mais bon, l'usage que j'en fais, par contre, en revanche, il est proche de celui que je fais d'Internet aujourd'hui. Donc je vais chercher les informations et je discute. L'intérêt de Second Life, c'est vraiment qu'on a ce mélange, finalement, de blogs, de sites Internet dynamiques, où on peut en fait vraiment discuter avec les gens qui ont mis en place des thématiques de ces choses-là avec eux. En ce moment, par exemple, on voit beaucoup apparaître les thématiques sur le développement durable, et on voit donc des communautés, des gens qui se regroupent, qui discutent, qui font des conférences là-dessus et qui essayent de trouver des solutions ou d'expliquer à travers Second Life quels sont les enjeux, quelles sont les solutions qu'on peut trouver. Ouais, ça c'est un des exemples, quoi.
Il y a une île qui a été créée dans cette optique. Une île utopique, hein, où on vit de manière durable et idéale.
Mais il y a plus qu'une île aujourd'hui. Il y a vraiment, il y a une île qui a été développée où il y a beaucoup de conférences. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est on parle de ça s'appelle Second Life, on parle de seconde vie, mais les gens n'y vont pas pour vivre des aventures extraordinaires non plus. Enfin, c'est pas que ça. Il y a des gens qui y vont pour rencontrer, discuter comme on le fait sur un chat aujourd'hui, sur Internet, et pour échanger de l'information et créer du lien social. Il y a une partie de la communauté qui va s'inventer vraiment une autre vie avec des codes, et là on est dans du jeu de rôle. Mais la majorité des utilisateurs n'y vont pas pour s'amuser à s'inventer une vie qui n'est pas la leur, en fait. Par exemple, la personne qui est sur la couverture, la femme qui est sur la couverture...
C'est une jeune blonde, très jolie.
J'ai discuté hier soir encore avec elle. Donc, c'est une femme qui vit au Texas. Et en ce moment, elle développe sur Second Life des applications qui permettent aux personnes à mobilité réduite d'avoir des interactions et un peu plus fortes. Donc, ça peut être au niveau de l'éducation... On peut imaginer, par exemple, un lieu où des personnes qui ne pourraient pas se déplacer pourraient quand même accéder à des cours.
Stéphane Pilet, vous l'avez rencontré en vrai ?
Non, je ne l'ai pas rencontré. Je ne l'ai rencontré qu'en virtuel. Et je ne pense pas la rencontrer un jour. Enfin, c'est assez loin. Je n'imagine pas aller au Texas pour la rencontrer, en fait.
Alors, pourquoi l'avoir mis en couverture ?
Ça a été un petit peu un coup de cœur. Moi, j'ai cherché pendant plusieurs semaines, j'ai cherché des personnages qui pourraient illustrer cette couverture. Et je voulais montrer qu'on pouvait vraiment créer des personnages réalistes, On avait tendance à voir dans beaucoup de reportages à la télé des avatars assez basiques et qui faisaient finalement très jeux vidéo. Et quand j'ai rencontré donc plusieurs personnages qui étaient graphiquement très soignés. Et c'est assez troublant parce que quand on discute et quand on observe, effectivement, il se passe du coup plus du tout la même chose. Et on sort de ce domaine juste application 3D et on rentre effectivement dans quelque chose d'un peu plus intime. C'est une vraie rencontre finalement.
Là, c'est la surprise. Parce que là, c'est même moi, je ne sais pas où je suis, vous voyez. Voilà, c'est une grotte souterraine. Une grotte.
Voilà. Oui, des cascades.
Oui, il y a les Bouddhas. Mais en fait, ce n'est pas les Bouddhas. C'est ce que je voulais, je n'ai pas trouvé. Mais ce que je voulais, c'est Tara. C'est-à-dire, c'est les Bouddhas de la compassion et de la miséricorde des Tibétains. Donc, c'est un Bouddha, mais en fait, c'est la grotte de Tara. Voilà. Et donc, c'est un endroit où on vient et il y a beaucoup de gens qui viennent passer un bon moment, se promener, contempler un peu. Voilà, c'est une grotte.
On peut toucher ?
Toucher, ça veut dire quoi ? Non.
Mettre les mains dans l'eau ?
Non, pas encore, mais ça va venir. Parce que les outils, ils sont assez rudimentaires, mais ça s'améliore très souvent. Donc voilà, donc là, c'est la grotte. Parce que Second Life, il y a cette chose qu'on retrouve très peu dans les mondes à 4D, c'est qu'il faut tout apprendre. Et donc, ça demande beaucoup d'humilité. On arrive, et on ne sait pas parler, on ne sait pas bouger, on ne sait rien, en fait. Par exemple, quand je suis arrivée avec Natacha, nous sommes allés dans un endroit qui s'appelle la coopération française. Et je soupçonne qu'il y avait beaucoup de jeunes, je ne sais pas, mais par la façon qu'ils ont traité. Et donc, j'ai cogné partout, je me cassais la gueule, etc., etc. Et on ne sait rien faire, quoi, mais vraiment rien faire. Et eux, ils se moquaient, ils mouraient de rire. Et donc, chaque fois que j'arrivais, ils disaient « appelle une infirmière, appelle un toubib, etc., etc. » Parce qu'on ne sait rien faire, on ne sait pas, quoi. Donc, il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à parler, il faut apprendre... C'est une leçon d'humilité que j'aime bien.
Voilà, ça vous a changé, Tatiana?
Ça m'a rendu peut-être plus sociable.
Combien d'avatars globalement dans le monde ?
Alors, il y a plusieurs chiffres. Il y a un premier chiffre qui est de un peu plus de 10 millions d'inscrits sur Second Life. Ensuite, il y a un chiffre qui correspond aux utilisateurs réguliers, on va dire, plutôt actifs. Et donc ça, ils sont classés sur les 30 ou les 60 derniers jours. Et là, c'est un chiffre qui est aussi entre 1 million, 1 million 5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en permanence, 24 heures sur 24, dans Second Life, il y a environ entre 30 et 50 000 avatars connectés.
Vous présentez les secrets de Second Life, c'est-à-dire vous nous aidez à plonger dans le monde virtuel, ce que vous dites. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Créer des objets pour améliorer notre apparence, créer des entreprises, devenir propriétaire. Pourquoi devenir propriétaire ? Une île, voilà. L'achat d'une île coûte à peu près 1232 euros, plus les frais, 300 euros à peu près. Pourquoi acheter une île ?
Alors, c'est ce que j'explique justement dans ce livre, c'est qu'on n'achète pas une île sur un coup de tête. En général, on a commencé à développer un savoir-faire dans Second Life qui peut être du service, effectivement, de la création d'objets et on peut décider de créer, par exemple, un lieu de vie et donc de l'aménager et donc comme on créerait un site internet. Donc le principe, quand on a envie de devenir propriétaire, c'est qu'on a envie de développer une thématique ou de donner de l'information ou de créer du loisir pour les avatars. Mais ça peut être aussi créer du lien avec le réel. Ça peut être une entreprise qui décide de s'implanter, d'acheter une île sur Second Life pour propager leur image à travers cet univers virtuel.
Donc ça peut être des politiques, ça peut être une entreprise. Et comment on va valoriser, comment on peut faire des affaires sur Second Life ?
Alors aujourd'hui, les personnes qui ont fait des affaires sur Second Life, ça a été, on va dire, des internautes un peu malins qui ont utilisé Second Life en achetant des terrains virtuels et en les revendant ou en louant des parcelles pour que d'autres avatars puissent en profiter et créer aussi leur contenu. C'est un petit peu comme si on achetait finalement un espace, un serveur sur lequel on dirait, voilà, moi je vous loue un petit espace sur mon serveur et si vous voulez développer une thématique, faites-le et voilà, c'est vraiment, ça fonctionne quelque part un peu comme un fournisseur d'accès Internet. Sauf qu'on est dans un univers en 3D et que les gens posent des objets, construisent des maisons et après ils font finalement ce qu'ils veulent avec. Hein.
Il y a aussi une dimension à ne pas négliger, bien entendu, c'est la dimension monétaire puisque c'est l'un des premiers environnements dans lesquels on assume complètement la circulation d'une monnaie convertible avec les grandes monnaies internationales. On peut aussi bien perdre des sommes importantes que gagner des revenus assez considérables. Ça pose des problèmes d'abord de fiabilité de ces monnaies. Dans Second Life, donc, on paye en Linden. C'est le nom du studio qui a créé Second Life, Linden Labs. Les autorités fiscales sont assez muettes sur le sujet. On ne sait pas comment déclarer des revenus en Linden. Je pense qu'on va sortir de ce vide juridique assez rapidement, mais pour l'instant, ça fait un vrai point d'interrogation. Il y a également, concernant cette monnaie, une incertitude quant à son émission. D'ordinaire, une monnaie est rattachée à une autorité, à une banque centrale, qui garantit la masse monétaire qui circule dans tel espace. Dans le cas du Linden, je ne sais pas quelles sont les garanties offertes par la firme qui développe tout ça. Et puis, se pose également le problème du blanchiment. Parce que si vous avez des dollars d'origine douteuse, l'échanger en Linden se fait très facilement. Utiliser les méthodes classiques de blanchiment telles que les casinos est également possible dans Second Life, puisque vous avez des casinos virtuels. Et pour l'instant, la seule réponse de Linden Lab au FBI a été d'organiser une visite pour les agents du FBI de ces casinos virtuels et d'interdire la publicité pour ces casinos virtuels. Il y a un économiste, Edouard Castronova, qui a fait tout un travail de chiffrage du produit intérieur brut des univers en ligne, des grands jeux où vous avez plusieurs millions d'utilisateurs comme World of Warcraft par exemple, ou de jeux comme, enfin, d'espace comme Second Life. Il arrive par des moyens qui m'échappent totalement à chiffrer la masse monétaire, à chiffrer le produit intérieur brut de ces univers-là. Pour l'instant, mon discours, je crois qu'il comparait le produit intérieur brut de Second Life à une petite économie d'Amérique latine, déjà, alors qu'on n'était que dans les tout premiers balbutiements de cet univers-là. Il est évident que les quantités monétaires qui circulent peuvent être très importantes dans la mesure où les joueurs viennent pour la plupart des pays industrialisés et utilisent pendant des heures et des heures ces univers-là, donc une bonne partie de leur budget de loisirs.
C'est vous ?
Oui, c'est moi, vous voulez voir ? À l'époque...
Il n'y a pas de son ?
Si, si, il y a des
sons. Il y a des petits oiseaux, non, quand on entend ?
Oui, j'ai des oiseaux, attends. Je vais vous faire une petite... Là, c'est l'île verte. Je vais monter d'en haut, comme ça, vous allez avoir une idée. Une meilleure idée.
Ah, vous montez dans le ciel ?
On vole sans arrêt.
Vous mettez des ailes d'ange ?
Ouais, des ailes de papillon. Plutôt. Bon, voilà, là, vous avez une idée de l'île.
C'est l'île verte. L'île verte vous appartient ?
Là, là, c'est l'île verte. Donc, l'île verte, il y a plusieurs maisons. Là, par exemple, c'est la maison de la paix. Alors, dans la maison de la paix, on a mis un peu des extraits des poètes de toutes les religions. Voilà, ça va de la Torah à Ibn Arabi. Là, c'est une maison japonaise. Voilà.
En ce moment, personne n'est sur l'île verte.
Non, l'île verte est fermée de toute façon. Donc, il faut être ami de l'île verte. Et en principe, c'est une île qui est ouverte pour des colloques, pour des conférences de presse, d'associations amies. Par exemple, on a prêté à plein d'associations. Et Reporters sans frontières, c'était la dernière. Et alors, je vais vous faire... Comme vous avez vu, on peut voler. Alors, on devient... C'est une très mauvaise habitude parce qu'après, pour marcher, ça fait très long. Là, c'est...
Dans la réalité ou...
Non, dans là-dedans. Dans la réalité, c'est... Qu'est-ce que c'est la réalité? C'est une vaste, vaste, vaste question.
Michel Maffezoli, vous traquez l'évolution des imaginaires, de l'imaginaire. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer aujourd'hui avec cette montée des mondes virtuels, cette adhésion virtuelle ?
Tout d'abord, je pense qu'il faut revenir sur ce mot imaginaire qui est important, parce que dans la tradition française, est-ce que je peux me permettre de dire dans la tradition franchouillarde qui est la nôtre, le terme imaginaire a toujours une mauvaise réputation, ce qui n'est pas réel dans le fond. Dans la grande perspective cartésienne qui fut celle de la tradition française, seul, je dirais, le rationnel est réel. Et moi, depuis un certain temps, mais après d'autres, je ne suis pas le premier, je pense en particulier à celui qui a été un des fondateurs de cette réflexion, qui est Gilbert Durand, je rends attentif au fait que, dans le fond, il est important de réfléchir sur ce qui est nébuleux, climatique, atmosphérique, c'est ça l'imaginaire. Ouais. Permettez-moi encore de dire comment, par exemple, au début de la modernité, un grand sociologue comme Weber, montrant comment s'élaborer une nouvelle manière d'être, le capitalisme, montre qu'il a une belle phrase, il dit « on ne peut comprendre le réel qu'à partir de l'irréel ». C'est-à-dire, ce qui est réputé irréel va fonder ce qui va devenir la réalité. Alors pour moi, c'est ça l'imaginaire.
L'irréel.
Disons-le, tout, oui. L'irréel, hein, dans le sens simple du terme, le climat, l'atmosphère. Hein, bien sûr, pour nous, encore une fois, tout le monde se souvient d'Arletty. Est-ce que j'ai une gueule d'imaginaire? Oui, on a toujours peur de l'atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? On a toujours peur de l'atmosphère. Moi, je pense que c'est l'atmosphère qui nous crée. Voilà, pour dire bref et pour faire image. En la matière, ça s'impose. Donc, je crois qu'à certains moments, cet imaginaire reprend force et vigueur, devient plus important. Nous sommes dans un de ces moments. Et dans le fond, moi, je dirais que le virtuel, dont Second Life est une des manifestations, mais ce n'est pas la seule, serait concernant, j'emploie à dessein ce mot, la postmodernité, ce nouvel imaginaire. Hein, c'est-à-dire, quelque chose est en train de naître, une nouvelle manière d'être, une civilisation qui n'est plus celle de la modernité s'élabore. Et dans cette élaboration, eh bien, Internet, sous ses diverses formes, joue un rôle d'importance. Voilà un peu le cadre général.
C'est-à-dire, Michel Maffezoli, que nous sommes dans un cadre d'imaginaire collectif. C'est la perte de l'identité de l'individu.
Oui, moi,
paradoxalement, c'est le contraire qui se passerait.
Moi, je suis de ceux, un peu à contre-courant, il faut bien le dire, qui depuis de longues années rend attentif au fait que l'individu et l'individualisme ne sont plus à l'ordre du jour. Alors qu'il est fréquent d'entendre hommes politiques, journalistes, universitaires dire, compte tenu de l'individualisme contemporain, ou se lamenter sur cet individualisme, je pense que l'individu et l'individualisme, l'identité forte, a été une des grandes marques, justement, de la modernité. On en voit sa naissance, on peut le dire très rapidement et très simplement, cogito ergo sum, Descartes. Je pense donc je suis. À partir de là, la réforme protestante, chacun établit sa relation à son Dieu. La philosophie des Lumières, Rousseau en la matière, dont le maître mot est l'autonomie. En grec, autonomos, je suis ma propre loi. On a là les trois moments de l'invention de l'individu qui va culminer au XIXe siècle, qui va bien marcher jusqu'à la moitié du XXe siècle. À mon sens, actuellement, et j'ai écrit là-dessus il y a maintenant deux décennies un livre qui s'appelle Le temps des tribus, où je montrais que, à la place de cet individu et de cet individualisme qui est censé en rendre compte, eh bien, on est confronté pour le meilleur et pour le pire. À la réémergence des tribus sexuelles, musicales, sportives, religieuses, peu importe. Donc, il me semble en effet qu'on est en train de dépasser la simple notion d'identité. Tout un chacun, je dirais, vit ce que d'une manière prophétique, Rimbaud avait bien dit, « je est un autre ». Ça, c'était une phrase à la fois poétique et prophétique. Actuellement, justement, au sein de ces tribus, eh bien, je suis ceci et cela, des identifications multiples, non plus une identité précise. Je peux avoir une réalité physico-chimique masculine et avoir des quantités de fantasmes et de potentialités féminines. Je peux être maintenant un professeur bon chic, bon genre, et ce soir traîner dans les boîtes de nuit malfamées avec une autre vêture, une autre manière d'être, sans qu'il y ait de l'asquise. C'est une autre facette de ma personne qui s'exprime. Voilà le schéma pour moi. Et c'est dans cette perspective de fragmentation de l'identité, moi j'appelle ça identification multiple. Dans cette fragmentation d'identité, bien évidemment qu'il trouve l'aide du développement technologique. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux Internet? Qu'est-ce qui se passe dans Second Life? Qu'est-ce qui se passe dans les divers forums de discussion, de recherche érotique, de discussion philosophique, religieuse ou autre? Eh bien, c'est qu'au travers d'un pseudo, je vais exprimer une facette de ma personnalité. Quand je dis exprimer, comme j'exprime le jus d'une orange, il faut que ça sorte. Hein, c'est cette dimension-là qui est en moi, eh bien, ça s'exprime au travers de fantasmes, de fantaisies, de fantasmagories, peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est pas là la question. Mais il se trouve que je suis en discussion, telle facette de ma persona, de mon masque, s'exprime sur tel réseau.
Ich bin eine spezielle Frau. Ich will deiner Liebe. Ich habe deine Liebe nötig. Ich kann nicht durchgehen. Ich muss doch sicher sein. Ich komme dann von Space. Ich will wissen, ob ich kann tun. Meine Liebe ist Sieger. Meine Liebe ist Sieger.
Natacha, toute la famille a plongé donc dans Second Life. Hein.
Oui. Oui, mais en fait, c'est parce que c'est un petit peu lié au fait que l'association Les Humains Associés a été fondée par Tatiana. Moi, j'étais très petite et j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. Et ensuite, depuis qu'on est sur Internet, depuis 1994, on développe ça ensemble, elle et moi avec mon frère Sacha. Et ça a correspondu à peu près au moment où on est rentré dans la vie professionnelle également. Donc nous, on travaille dans l'Internet, mais on développe... On a développé tout ça ensemble, et ce qui est intéressant pour Second Life, c'est qu'on s'attendait pas du tout à ce que ce soit quelque chose qui marche très bien tout de suite. Parce qu'on a eu l'habitude d'explorer tout ce qui est un peu les espaces, les communautés, les forums, les sites internet, parce qu'on en a plusieurs pour organiser par exemple des événements réels. Et on a eu l'habitude d'aller dans des recoins avec Tatiana où on était un peu solitaire et on a vu les gens au fur et à mesure arriver, au fur et à mesure des mois et des années, et on pensait pas du tout que Second Life ça allait avoir un grand succès. On y allait vraiment, presque naïvement, à créer notre île, à expérimenter en attendant un futur tout à fait incertain.
C'est un espace qui crée aussi un lien entre vous trois.
Oui, enfin, c'est un lien déjà existant dont il y a une extension du fait d'avoir des activités ensemble. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se compléter avec nos savoir-faire. D'abord, ce qu'on savait faire avant d'arriver sur Second Life, et puis le fait qu'on s'est complètement formé aussi à créer des choses. Tatiana construit énormément, elle développe à la fois les jardins, l'architecture intérieure, elle construit des immeubles, et donc c'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé il y a à peine un an, c'était pas du tout dans notre idée.
Et votre frère, lui ?
Ah, mon frère, il construit également, il programme, enfin, ils travaillent ensemble, ainsi qu'avec un ami également. On a tous appris, j'allais dire, au fur et à mesure des besoins, mais on a réellement appris pour l'association, pour développer l'île.
Qui fait appel à vous ?
En fait, l'île a eu un succès, on dit « in-world » et « out-world », c'est-à-dire « dans le monde et hors du monde ». Dans le monde, puisque l'île est très originale, c'est un grand jardin. Nous, il y avait notre démarche humaniste et écologique également, et non lucrative, qui était originale. Ce qui a fait que, bon, on nous connaît dans Second Life. Et puis ensuite, il y a eu donc l'écho dans la vraie vie, ou at world, puisqu'il y a eu un certain nombre de médias, notamment on a eu un reportage au journal 20h TF1. C'était complètement inattendu. Ils nous ont contactés à travers le blog de l'association. Et on a senti qu'il y avait, disons, une curiosité pour tout ce qui est le nouvel Internet et le fait que l'Internet, nous, on pense que le web va être en 3D très, très rapidement. Enfin,
C'est-à-dire à l'image de Second Life ?
Je pense que ça va même être beaucoup mieux. Là. Je pense pour ceux qui ont connu les jeux vidéo, au départ, on jouait avec des jeux qui étaient en deux dimensions. Il y avait un jeu qui s'appelait Pong, par exemple, qui était avec deux petits rectangles où on envoyait une petite balle. C'était un jeu de tennis vraiment, vraiment préhistorique. Bon, en un an, on a déjà vu Second Life évoluer, mais là, vraiment, on en est à cette phase. C'est-à-dire qu'il va y avoir les lignes Internet qui vont être de plus en plus puissantes, les ordinateurs qui vont être de plus en plus puissants, les serveurs qui permettent de modéliser le monde. Et on va aller vraiment, je pense, vers une réalité virtuelle ou un homme augmenté sur Internet qui fera que demain, ça sera beaucoup plus réaliste parce qu'il y aura la capacité des machines. Et là, ça va être, je pense, assez confondant de réalité. Là, je vais dire, c'est assez rudimentaire encore, bien qu'on puisse faire des belles choses.
Prendre au sérieux cette idée que l'on n'est pas une seule chose.
Sans être dans la schizophrénie.
Sans qu'il y ait de la schizophrénie. C'est encore une conception qui est de la nôtre, c'est-à-dire qui est, encore une fois, il fallait être un. Je suis d'un sexe, d'une idéologie, d'une profession. Alors que quand on regarde ce que sont les pratiques juvéniles, en particulier, moi c'est l'objet du centre d'études que je dirige à la Sorbonne depuis un an fort longtemps, de réfléchir sur l'évolution des jeunes générations. Et eux, on voit bien que ces générations, on voit bien qu'elles ne sont, les participants ne sont pas véritablement des individus intangibles, substantiels, mais qui vont virevolter, participer à des groupes, moi j'appelle ça tribu, peu importe, multiples et divers. Oui, je crois qu'il faut prendre au sérieux cette prophétie de Rimbaud. Hein. Je dis bien, je est un autre, c'était quelque chose qui était poétique et qui s'est capillarisé dans l'ensemble du corps social. Tout un chacun est autre chose que là où on voudrait le mettre, en quelque sorte. Et ce, dans tous les domaines. Un exemple intéressant, c'est celui de la mode ou de la publicité, où on voit qu'il y a une vraie indécidabilité du genre. Il faut vraiment parfois faire attention pour savoir si c'est un homme ou une femme qui est en jeu dans telle publicité pour ce qui concerne la mode. Et bien évidemment, l'aspect le plus paroxystique, moi je trouve, c'est dans les réseaux Internet, où là, en effet, on sait bien que c'est difficile à évaluer, mais par exemple, plus de 50% des pseudo-féminins sont en fait un masque pour un homme. Voilà, donc ça montre bien en fait qu'il y a un jeu. Je dis bien fantasmagorie, fantaisie, fantasme, mais en tout cas ça s'exprime.
Michel Maffezoli, le fait que l'imaginaire maintenant se colle au virtuel, est-ce que ça n'implique pas aussi une dimension nouvelle ? Parce qu'avec Second Life, on dépasse la problématique du réseau Internet, puisqu'on peut se donner une image, jouer avec des images.
Voyez-vous,
s'identifier à ces images totalement.
Oui, même d'une manière très forte. Mais après tout, moi, il faut, nous sommes qu'au début de cette réflexion. Mais, et donc, rien de ce point de vue n'est systématique. Mais on ne peut pas, conceptualiser quelque chose qui est à l'état naissant. Mais il me semble qu'en tant que notion, Le virtuel serait une autre manière contemporaine de dire l'imaginaire. Voilà pour moi. Alors, je dis avec prudence, n'est-ce pas ? Je viens de l'exprimer avec prudence. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a dans le virtuel la possibilité d'exprimer, je dirais, de mettre à jour, en quelque sorte, les potentialités multiples que tout un chacun possède. En gros, ça veut dire une chose simple. On a plusieurs vies au sein d'une même vie. Et cela s'est vu dans les mythes. Les mythes, dans le fond, c'est du virtuel, c'est-à-dire on y exprime telle histoire, tel amour, tel désamour, telle bagarre, tel désir d'agressivité, etc. Et ça, les mythologies diverses ne sont que ça, finalement, des mises en scène de tout cela. Eh bien, actuellement, le virtuel, ce sont ces possibilités-là, quand on voit les jeux de rôle, par exemple. C'est frappant de voir comment il y a cette conjonction du chevalier du Moyen-Âge et du réseau et du rayon laser, par exemple. Paradoxe de choses apparemment très opposées et pourtant qui vont se retrouver dans une même figure et tout à l'avenant. Voilà, donc le virtuel, je dis bien, est aussi réel que le réel, puisqu'aussi bien on peut y être addict, on peut y exprimer ce que l'on est, on peut s'y adonner des heures durant, sans que cela soit forcément de l'ordre de la pathologie. C'est tout simplement la même chose que ceux qui étaient adonnés au travail, que ceux qui étaient adonnés à telle forme de drogue, que ceux qui étaient adonnés à telle idéologie, ou entre un fanatique politique et un addict Internet, pour moi il n'y a aucune espèce de différence. Dans les jeux de rôle, par exemple, ou dans le fait qu'on s'invente une seconde vie sur tel réseau, dans tel phénomène de dans tel site de discussion, eh bien, je ne peux pas, je ne sais pas dire si c'est bien, si c'est mal, si c'est pathologique ou pas. Je constate que là, il y a, je dis bien, une manière de s'exprimer. Si je peux le dire en d'autres termes, tenez, un peu plus philosophique. Aristote, parmi nombreuses catégories qu'il a proposées à la réflexion, a proposé celle de la catharsis, se purifier de quelque chose. Il disait, telle chose existe, ça ne sert à rien de condamner, eh bien, trouvons des moyens pour que ça sorte, si je puis dire, hein, qu'on exprime, hein, un peu, plutôt que le pu soit répandu dans le corps, quand il est dans un bouton, on le repère où il est. Bon. Eh bien, en la matière, c'est cela qui est en jeu, hein, c'est-à-dire que, dans le fond, c'est intéressant que même tel fantasme d'agressivité que tout un chacun peut avoir, de méchanceté ou autre perversion diverse d'ailleurs, dès le moment où ça s'exprime, ça sort. Et dans le fond, le fait qu'il y ait la catharsis et la purification. Quand ça s'exprime, ça ne devient pas pervers. Donc de ce point de vue, moi je considère que, à l'encontre de nombre de psychiatres, d'observateurs sociaux divers, qui considère quelque chose de malsain dans l'enfant ou l'adolescent qui est addict sur ses blogs, par exemple, ou dans les discussions qu'il peut avoir, eh bien, moi, je dis, en le fond, c'est peut-être une manière moins nocive d'exprimer, dans le sens que j'ai donné à ce mot exprimé depuis tout à l'heure, tel élément sombre, trouble de sa personnalité, qui, si elle ne s'exprime pas, elle ne s'exprimait pas, contaminerait l'ensemble de sa vie. Dans le vrai sens du terme. Et là, dès le moment où ça sort, bien ça sort.
Alain Avila.
Cette espèce de société virtuelle dans laquelle on nous inscrit est l'affirmation très très forte de cette situation objective d'un besoin de transcendance, que ce besoin de transcendance nous oblige à travailler sur le champ de l'imaginaire, ce dont pendant des années on avait un peu oublié, parce qu'on avait laissé l'imaginaire aux soins des docteurs et de la psychanalyse, qui en fait tentaient de nous expliquer que c'était toujours à cause de maman, à cause de papa, à cause de quelque chose d'autre. Là, tout à coup, aujourd'hui, sans ce recours à des psychologies interprétatives, l'imaginaire nous met, nous réinstalle de plein pied dans ce que nous sommes matière, corps et matière, et on comprend très bien aussi que ce corps et matière a besoin de quelque chose qui est au-delà de la matière, ou peut-être un appel de la matière à venir. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est aussi de se dire qu'il y a deux façons de construire le virtuel, soit par mimétisme avec ce que l'on connaît, et alors le virtuel vise à remplacer un manque, soit le virtuel pourrait être absolument constructif de forme, d'attitude ou de situation qui n'existerait pas, et que le virtuel serait tout à coup synonyme d'invention. Dans ce cas-là, et par rapport à l'acte amoureux, l'indication du manque qu'il désignerait et l'indication que ce manque n'est jamais qu'en nous-mêmes serait tout à fait fondamentale. Donc il y a à la fois quelque chose d'extrêmement fabuleux aussi, c'est que le virtuel serait ce qui indique à quel point notre solitude est immense et qui indique que l'endroit avec lequel peut-être on communique par les autres, c'est ce lieu de notre propre solitude qui rencontrerait une autre solitude.
Alain Avila, dans certaines religions, une ceinture sépare le bas du corps, donc la matière, le corps, de la pensée. Est-ce qu'on ne peut pas penser que désormais, c'est l'écran de l'ordinateur qui joue ce rôle ?
Absolument. Je crois qu'on est dans cette. Je crois que dans d'autres religions, ce qui relie le corps et la pensée, c'est la cilice, c'est-à-dire un clou, une pierre pointue qui fait mal au corps. La question, elle est toujours qu'il n'y a jamais existence du corps sans douleur, et la douleur n'est jamais que. Regardez cet état de bonheur. L'état de bonheur, c'est je sens pas mon corps. Le bonheur, être bien, ce serait « j'existe pas », comme dirait Tardieu. Ce qui est fondamental dans le virtuel, c'est qu'il indique que le manque, comme objet désigné à conquérir, induit une espèce de fiction dans ma propre vie, et que cette fiction, elle est le projet que je m'invente. Mais ce projet que j'invente à mon corps, c'est un projet que je donne à ma propre existence comme quelque chose qui a à s'accomplir. Et elle ne s'accomplit jamais que dans l'acte pauvre et solitaire de ma satisfaction solitaire.
Alain Avila, on peut tomber amoureux sur Second Life,
souffrir
du manque.
Je pense que quand on est sur Second Life, on est forcément amoureux de soi-même. Je veux dire, le premier Second Life, c'est Roméo et Juliette et son mythe. Je veux dire, il n'y a pas de différence entre les mythes fondateurs de l'amour, des actes amoureux et de la saga amoureuse, de ce partage de moi avec un autre. Je veux dire, il est fondateur de ce qui est l'humain. Il est presque quelque chose qui s'échappe de la solitude de chacun, comme l'affirmation même de cette solitude. Et je crois que c'est que la poésie et notre société, avec son économie qui fait croire que l'autre est un autre.
D'ailleurs, même pour mon personnage, par exemple, je suis en train d'expérimenter des gestes. Et quand on, normalement, quand on parle avec les autres, on tape sur un clavier invisible et on a le son du clavier. Et là, j'ai rajouté des gestes. Et donc, en fait, mon personnage ouvre la bouche et remue un peu des bras comme si elle parlait. Et on va de plus en plus vers des animations comme ça, personnalisées, qui permettent d'avoir des gestes. On peut embrasser quelqu'un, on peut lui serrer la main, on peut travailler à une table, on peut s'asseoir. Ça apporte quelque chose de plus que d'être derrière uniquement son clavier dans un salon de discussion normal.
Franck, vous n'allez plus sur Second Life, ça ne vous intéresse plus ?
Oh, est-ce que j'y suis déjà vraiment allé ?
Si, vous avez tout de même.
J'ai passé
un ouvrage Culture d'univers.
Qui parle de tout ça. Donc j'ai passé ces dernières années un petit peu de temps sur ce qu'on appelle aujourd'hui les univers persistants. Mais j'y ai passé plus du temps pour observer, parfois pour faire des projets, mais rarement, et en tout cas très peu en tant qu'utilisateur ayant une pratique ludique, passionnée des mondes virtuels, non plutôt comme observateur.
Donc l'observateur voit quoi ?
J'observe en ce moment, par exemple, ce qui est intéressant, c'est le discours et la perception que les médias ont des univers persistants, et en particulier de Second Life. Je trouve assez intéressant, un petit peu amusant de voir que que des gens annoncent la mort de, des mondes virtuels, qu'on a un phénomène déceptif en ce moment de la part des entreprises, des annonceurs, qui se sont rués sur Second Life au cours de ces derniers mois et qui se sont rendus compte qu'il n'y avait rien à faire et donc qui se retirent des environnements virtuels. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui glosent autour de ça en disant « bon, bah finalement, tout ça n'était qu'un leurre », etc. Et ça, c'est un sujet intéressant parce que ça rappelle vraiment des choses qu'on a connues au début de l'Internet, je sais pas, autour des années 99-2000, où des gens se sont dit « mais il n'y a rien à faire sur Internet, quand on y va, on ne sait pas ce qu'on a à chercher, et donc dans quelques années, Internet sera mort ». Alors ce qu'il y a en commun, c'est qu'en effet, il y a eu un phénomène de bulle autour de Second Life, c'est-à-dire que si on fait un petit peu un historique, si on prend Second Life, hein, les mondes virtuels ne commencent pas du tout avec Second Life, hein, ça commence bien avant, mais si on prend l'histoire de cet environnement-là, il a été créé en 2003, pendant 3 ans, seuls les spécialistes en parlaient, c'est-à-dire jusqu'en 2006 à peu près, donc il y avait une communauté de quelques centaines de milliers de personnes d'inscrits, on va dire, peut-être quelques dizaines de milliers de personnes vraiment actives, et puis en 2006, il y a un phénomène de médiatisation de Second Life. Je dirais que les médias découvrent les mondes virtuels. Voilà, grosso modo, les médias américains, ensuite les médias européens et français, découvrent que, voilà, tout d'un coup, il y a des environnements 3D dans lesquels il y a des gens qui font des choses, qu'il y a des économies, et que dans ces systèmes économiques, il y a même des gens qui font fortune. Et donc, à partir du moment où, autour de l'année dernière, on commence à prendre note du fait qu'il y a des millionnaires dans Second Life, qu'il y a une mythologie qui se met en place, une mythologie d'individus qui, tout d'un coup, effectivement, serait parti vers quelque chose qui pourrait ressembler à une nouvelle ruée vers l'or. Et donc, ça devient, voilà, Second Life devient ce que j'ai appelé une buzz machine, c'est-à-dire un phénomène lié à un nouveau média qui fait qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau dans ce média, eh ben, on en parle. Ça suffit à faire couler de l'encre et du papier. Et donc, pendant plusieurs mois, toutes les marques, effectivement, les médias et autres qui se sont ont décidé de s'installer sur Second Life, suffisait d'avoir cette démarche là pour qu'on en parle, pour que tout d'un coup ça devienne en soi quelque chose, un événement, voilà. Que Reuters soit dans Second Life, que une marque de chaussures soit dans Second Life, que, etc., était un événement en soi. Et donc là on est un peu dans la phase après, je dirais, la fin du pic de la buzz machine, c'est-à-dire que bon, bah, ça y est, tout le monde a un petit peu essayé de prendre sa part de cet environnement. On a déjà dit beaucoup de choses, et finalement, aujourd'hui, ce qui se dit, c'est essentiellement, hein, dans les médias, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire, voilà, c'est un environnement virtuel, c'est peut-être le web 3D, et les marques se rendent compte que, bah, en fait, c'est beaucoup plus difficile que ça de faire fortune dans Second Life, et que du coup, certaines commencent à se retirer. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin des années 90, lorsque les marques ont découvert Internet et ont développé ou payé des agences pour faire leur premier site Internet, en espérant que tout d'un coup, elles allaient multiplier leurs ventes, etc., et développer, entre guillemets, leur marché. Et alors que voilà, la question, en fait, c'est tout simplement qu'on a affaire à un nouveau média qui a des propriétés nouvelles, qui donc suppose, exactement comme Internet, bah de comprendre ces mécanismes. Et au-delà de la présence, il s'agit de développer des choses dedans. Et la question critique devient qu'est-ce qu'on fait dans ces environnements, quelles sont leurs propriétés, comment ils s'inscrivent dans une histoire des médias, en quoi ils sont différents du jeu vidéo, en quoi ils sont différents de l'Internet, en quoi ils sont différents du cinéma d'animation. Et c'est une fois qu'on commence un peu à comprendre les propriétés de ce qu'on appelle aujourd'hui les mondes virtuels, que les questions deviennent plutôt intéressante. Ouais.
Enfin voilà, on a vraiment tout. Et c'est intéressant aussi, il y a pas mal de sociologues qui utilisent ça, la perception qu'on a de l'autre à travers son apparence aussi. C'est vrai que si vous avez quelqu'un qui vient avec un monstre assez affreux, par exemple, vous serez moins amené à discuter avec lui. Donc, il y a des gens qui s'amusent à se mettre absolument des apparences affreuses, par exemple. Ah, il y a quelqu'un qui me donne c'est sympa. Il me donne un verre de gin pour boire. Voilà. Et donc, il y a des sociologues américains, par exemple, qui ont étudié une expérience intéressante. Oui, d'une fois, il y a eu un jeune homme, je crois, qui... blanc, voilà, bien sous tout rapport, qui a fait l'expérience de se mettre en noir, et il a découvert, en fait, il se promenait, qu'il y avait une forme de racisme ou de distance, que les gens ne parlaient pas de la même façon. Donc, moi, ce que je dis à mes amis hommes, c'est allez vous balader en femme sur Second Life, vous allez voir un peu comment on vous aborde. Et il y en a certains qui vraiment, ça leur a permis d'avoir un regard intéressant. J'ai un ami, par exemple, qui se promène en femme, c'est assez amusant, qui le fait très très bien, qui a eu beaucoup de succès. Et il pouvait voir un peu comment les autres hommes l'abordaient. Alors, on me donne un verre de cognac, vous voyez, ils sont très généreux. Donc, on peut passer un temps. Alors, on peut se dire que c'est un peu absurde aussi de passer du temps à mimer les choses, mais en fait, quand vous y passez du temps, c'est un peu comme c'est comme un film interactif. En fait, vous vous identifiez à votre personnage, puis si on vous donne à boire, ah bah, en fait, c'est un jeu, c'est un peu comme à la dinette quand on est petit, on se dit bah, pourquoi pas, puis en fait, on se met à boire. Par exemple, une fête dans ces collages, c'est très drôle. Sur mon île, il y a une boîte de nuit, alors on fait des petites fêtes, et on rit beaucoup. C'est drôle, vous mélangez, vous avez votre personnage qui danse. Ça peut être drôle en fait. Ça met quelque chose. Quelque part, il y a votre autre vous-même qui s'amuse, qui danse, qui va sur la plage, qui nage. Enfin, c'est assez amusant. Il y a des gens qui s'inquiètent un peu parfois pour notre santé mentale, mais en fait.
Vous passez beaucoup de temps, Natacha.
Moi, j'y passe beaucoup de temps, mais je passe beaucoup de temps sur Internet en général, parce que je travaille avec également, et puis ça me passionne. Et en fait, moi, mes sphères se mélangent. Il y a la sphère professionnelle, il y a la sphère associative qui a une part importante dans ma vie, puis la sphère amicale. Donc, bon, après, j'ai des amis, et des amis, je les retrouve là ou dans un autre espace sur Internet. Et donc, finalement, on se retrouve là, on discute et on reste en contact. En fait, c'est intéressant l'idée que on ne se voit peut-être pas parce qu'on a des activités professionnelles très riches et puis des fois, on n'habite pas la même ville. Mais donc au final, pour répondre à votre question, oui, j'y passe énormément de temps sur Internet et sur Second Life. Mais quand on construit, en fait, on se fait une vraie journée de travail dedans. C'est que quand vous construisez, un immeuble, par exemple, il est fait d'une multitude d'objets. Et ces objets, vous les avez créés un à un. Et ensuite, vous les avez positionnés un par rapport à un autre. Et ensuite, l'immeuble par rapport à un autre immeuble. Et une rue, chaque arbre, et chaque petite fleur, chaque brin d'herbe parfois. Donc, vous passez une journée peut-être à jouer un peu à un créateur ou une déesse d'un monde virtuel. Mais enfin, en tout cas, oui, on peut passer. Les gens qui travaillent dans Second Life passent vraiment 8 heures par jour dans Second Life, voire plus, à construire. Donc.
Qu'on note rarement quand on parle des mondes 3D, mais je pense que c'est l'un des plus importants, c'est que si on imagine, et il suffit simplement de regarder l'actualité et de faire se rejoindre des faisceaux d'indices qui sont assez nombreux, si les mondes virtuels absorbent les territoires, c'est-à-dire que si demain l'ensemble de la Terre est cartographiée en 3D, ce qui est déjà un projet de Google, ce qui est déjà en train de se faire dans Second Life d'une certaine façon. Donc de toute façon, de manière inéluctable, dans les 10 ans qui viennent, l'ensemble de la planète sera cartographié en 3D. Et qu'est-ce que c'est qu'une cartographie 3D du monde ? Qu'est-ce que c'est qu'une cartographie 3D exhaustive du monde, au centimètre carré ? Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un monde qui se dote d'un dispositif de représentation de son espace et de son espace-temps, qui est suffisamment précis pour que chaque centimètre carré de cet espace puisse avoir notamment une mémoire. Je pense que c'est ça l'évolution majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire quelle est l'histoire de cette chaise, par exemple, qui est en face de moi. Si cette chaise est dans un environnement virtuel, toutes les personnes qui se sont assises pourraient effectivement avoir laissé une trace. Et on pourrait reconstituer l'histoire de chaque objet, reconstituer l'histoire de chaque endroit. Alors ça pose plein de questions, ça ouvre plein de problématiques, mais en tout cas, ça laisse entrevoir une perspective de révolution, on peut le dire, dans l'histoire de la géographie, c'est-à-dire dans l'histoire de la représentation du monde. Et là, on est obligé de se rendre compte à ce moment-là que notre perception du monde est très liée au mode de représentation que nous avons de ce même monde. Donc on sait très bien que l'histoire de la conquête du monde est très liée à l'histoire des cartes et vice-versa. On sait très bien que l'histoire de la constitution des civilisations et des villes est très liée à la cartographie, à la capacité à se représenter, à fabriquer, à simuler, etc. des choses. On sait très bien que notre manière de nous déplacer dans la ville est liée aux cartes que nous avons. Et donc si ces cartes demain sont différentes, si ces cartes sont plus précises, ou si ces cartes proposent des informations, en gros sur le monde visible, sur le monde qui est aujourd'hui invisible, qu'est-ce que ça donne? Comment penser une culture, une société, une civilisation qui évolue dans un environnement où l'information sur le monde, quelque part, donne des détails qui n'existait pas précédemment. Alors, on trouvera toujours des inconvénients à ça, et puis, effectivement, sans doute, des perspectives nouvelles.
C'est inéluctable, selon vous, Franck.
Ah oui, c'est inéluctable que, à courte échéance, il y ait une cartographie 3D de l'ensemble de la planète. Ça, c'est inéluctable.
Quand on vole, vous l'essayez, les gars. Là, vous montez, là, vous descendez, ok? Hop, si vous montez comme ça, après, vous volez. Et là.
Oula,
vous êtes
je suis écrasée.
Vous pouvez respirer dans l'eau. Voilà. Vous pouvez marcher dans l'eau.
Qu'est-ce qui se passerait si mon avatar se révoltait contre moi? Qu'est-ce qui se passerait si tout à coup il gagnerait en indépendance ou qu'il déciderait à vivre un temps qui n'est pas le mien? Si il anticipe sur ma propre vie ou si au contraire il est capable de m'emmener en arrière? Là on serait totalement dans la logique de Kadic et cette façon avec laquelle il interfère les choses et met dans la pensée un moteur extrêmement puissant, parce que construit par l'imaginaire, mais absolument irréaliste, parce qu'il y a une telle confusion entre l'espace et le temps que la chose est réellement inconcevable, sinon dans le champ de la poésie, de l'imagination et de la fiction, qui est quand même un champ assez fondamental et propre à l'humain. Ces avatars et ses amours et ses vies au second degré, on pourrait espérer qu'elles deviennent constructives de fiction et qu'elles ne soient pas des vies fictionnées. Je ne suis pas sûr que cela puisse être. J'aurais aimé que les œuvres d'art que je puisse y voir ne soient pas des œuvres d'art copiées sur le champ de la vie, mais qu'elles contiennent elles-mêmes, dans leur puissance, des choses qui renouvellent bouscule, dérange ce que moi j'attends être une œuvre d'art par la forme et surtout par sa conception. J'attendrai aussi que les valeurs mises en jeu dans ce Second Life soient des valeurs d'une vie supérieure, celles que l'on attend dans le champ religieux de ce qui serait une seconde vie.
Nous sommes à compte courant quand même. C'est-à-dire, et donc, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre démarche là-dedans. Cette démarche, par exemple, des hommes associés, l'anéthique, pas du tout. Et donc, nous étions très agressés au début aussi, les gens qui viennent, parce que il y a aussi des espèces de terroristes qui arrivent et qui jettent des boules de partout, etc., etc. Et donc, on avait beaucoup d'attaques. Et on s'est dit, on va fermer l'île, on va faire l'île privée. Parce qu'au début, elle était ouverte. Et comme ça, ceux qui viennent, ils viendront véritablement parce qu'ils veulent rencontrer un autre type déjà avec cette sensibilité qu'elle a. Donc, voilà, j'ai dit, non, l'île, elle sera poétique, elle ne sera pas.
C'était Radioactivity, la vie rêvée sur le net, premier volet, Je est un autre. En compagnie de Tatiana et Natacha Quester-Séméon, propriétaires de l'île verte, espace d'utopie et de débat, et première ONG, les humains associés sur Second Life. Virginie Sebag, artiste. Alain Villa, directeur de Area Revue. Franck Beau, coordonnateur de l'ouvrage collectif Culture d'univers, les jeux en réseau et la société numérique, FIP Édition. Olivier Caïra, sociologue des jeux de rôle. Michel Maffezoli, sociologue, qui voit dans le virtuel se dessiner les nouveaux contours de l'imaginaire. Et Stéphane Pillet, auteur de Les secrets de Second Life, édition Fixo. Coordination Anne-Vanessa Prévost, prise de son Marcel Lebras, mixage Bernard Laniel. Une émission proposée par Anita Castiel et réalisée par Anna Smuk.
Oui, il y a des oiseaux. C'est des mouettes. Il y a aussi des dauphins. Parce qu'il y a, il y a quelque chose qui il y en a beaucoup d'artistes dans Second Life, des créatifs, des peintres, des sculpteurs, des designers, par exemple, pour les oiseaux. Et donc, et en plus, ça évolue très, très, très vite. Et voilà, il y a des dauphins, nous avons des petits dauphins. Mais voilà, il y a un qui passe là. On peut chevaucher un dauphin. Et la nuit, c'est très joli.
Demain, second volet, Taz, Liberté, j'écris ton nom.
C'était Radioactivity, la vie rêvée sur le net, Je est un autre, un documentaire d'Anita Castiel pour Surpris par la nuit, diffusé pour la première fois le 18 décembre 2007.